Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Ktuvot, page 95, Daf Tzadik He. Bonne écoute et bon limoud.
Amarle, venir tov limar tirfa, meyar veilach. Cette personne a dit à Yosef, au moins écris-moi une ordonnance qui me permettra de récupérer ce que j'ai perdu, l'argent que j'ai donné au vendeur. Et si le vendeur n'a pas d'argent, je pourrais réclamer des acheteurs potentiels ce qu'il a vendu à partir du premier IA. On a changé de page, on est indiqué à Moudalef. Amarle, lui a dit à Yosef, non, je ne peux pas. Yachle le memarlach at barchat benissan at. Les acheteurs potentiels pourront te dire, ce n'est pas juste que tu n'as pas reçu le champ. En effet, c'est toi qui étais le premier. Ton acte a été rédigé le premier Nissan. Donc ce n'est pas à nous de te rendre ce que tu as perdu. Tu n'as qu'à récupérer ton champ. Alors on dit la Gemara, Maïta Kante, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Nirtevou Arshahala Dadi. Les deux acheteurs pourront s'écrire une procuration l'un envers l'autre. Et après, avec cette procuration, ils pourront retourner réclamer chez l'acheteur potentiel. Et ils pourront lui dire Miman Afshar, de deux choses l'une. Si c'est moi le deuxième, donc ton vendeur me doit de l'argent, à toi de me le rembourser. Et si tu me réponds que je suis le premier acheteur, alors j'ai procuration, et je ne viens pas en mon nom. Je viens en nom de mon camarade. C'est lui le deuxième. Donc ton vendeur, lui doit de l'argent, paye-le-moi. Et c'est là qu'on termine le cours du Daf Ayomi, du Daf Tzadik Daled. Maintenant, par la dernière Mishnah du chapitre, on commence Bezrat Hashem, le cours du Daf Ayomi, du Daf Tzadik He. Nous commençons la Mishnah. Mishayana Suyu Bet Nashim, celui qui était marié à deux femmes, ou Machar et Tzadeu, et il a vendu son champ. Et la première a écrit à l'acheteur, je renonce aux revendications que je pourrais avoir contre toi, si en cas de veuvage ou de divorce, comme quoi je veux réclamer de mon mari l'actuva, et il n'aura pas de quoi payer, je renonce à réclamer de toi le champ que tu viens d'acheter. Hashnia, motziam et alokeach. La deuxième qui n'a rien écrit à l'acheteur, pourra oui réclamer le champ de l'acheteur. Et maintenant, Verishona Minashnia. La première n'a rien écrit à la deuxième, et donc après que le champ est retourné chez la deuxième, la première pourra la réclamer de la deuxième. Et après cela, Verlokiach Minarishona, et l'acheteur pourra de nouveau le réclamer de la première. En effet, face à l'acheteur, la première a renoncé. Verchosrot Khalila. Et ainsi de suite. La deuxième le réclame de l'acheteur, la première de la deuxième, et l'acheteur de la première. Ad Sheya Asup Shara Benem. Jusqu'à qu'ils se mettent d'accord entre eux. Vechen Baal Chov, Vechen Isha Baal Atchov. De même à propos d'un créancier, et de même à propos d'une femme créancière. L'Agmara va l'expliquer. On commence l'Agmara. L'Agmara demande, Vechi Katvale Mayave. Et alors, si elle lui a écrit, cela change en quoi? Ce qu'elle a écrit ne l'engage à rien du tout. Vatania, comme on a vu dans la Braïta, ha omer le chavero dinu dvarim en li al tzadezu, ve en li esek ba, ve yadim suleket hemena lo amar klum. Celui qui dit à son camarade, cela s'entend son camarade associé, dinu dvarim en li al tzadezu, je n'aurai aucun droit de réclamation sur ce champ-là, ve en li esek ba, ou bien il lui dit, je n'ai rien à faire avec ce champ, ou bien il lui dit, ve yadim suleket hemena, je dégage mes mains de ce champ-là, lo amar klum. Étant donné que ce champ lui appartient déjà, s'il veut le donner, il doit le donner, et non pas se retirer ce champ. Donc, à propos de la Mishnah aussi, comme nous l'explique le premier Tosfot, étant donné que même tant qu'il est marié à elle, il ne pourra pas vendre ses biens, étant donné que ses biens sont engagés à l'Aktuva, c'est comme si elle a déjà reçu l'Aktuva. L'Aktuva se trouve chez elle. Et par conséquent, pour renoncer, pour donner quoi que ce soit, il ne suffit pas de dire « Dinu dvarim en li imcha ». Alors, comment la Mishnah nous a dit que la première a renoncé envers l'acheteur, en employant ces termes, dinu dvarim en li imcha, je renonce à mes droits de revendication envers toi. Répond la Gemara, hacha b'mayaskinan, b'shekanu miyada. Dans notre Mishnah, il s'agit du cas où un kinyan a été fait. Elle ne lui a pas simplement écrit dinu dvarim en li imcha, mais en plus elle a fait un kinyan, un acte d'acquisition qui donne de l'importance à la renonciation. Et comme on l'a déjà vu dans le daf Pegimel à la fin du Hamoud Aleph, du moment où il y a eu un kinyan, l'acte d'acquisition, alors migufa shelkarka kanumiado. Le kinyan est dirigé directement sur le champ, et non pas sur les propos qu'elle a dit. En fonction de cela, sa renonciation est valable. Demande la Gemara, vechi kanumiada mayave. Dans notre cas, À quoi cela sert qu'on a fait avec elle un kinyan, un acte d'acquisition? Tema nachat ruach asiti le baalé. Elle peut prétendre ne pas l'avoir fait sérieusement. Notamment, elle ne l'a fait que pour faire plaisir à son mari. Et qui est-ce qui nous dit que ce prétexte est accepté? Milotnan. Est-ce qu'on n'a pas vu la même chose dans une Mishnah? La kach mina ish ve chazar ve la kach mina isha, mekro batel. Celui qui a acheté d'un couple un champ appartenant à la femme, donc il l'a acheté d'abord du mari, et ensuite il l'a acheté de la femme, il a reçu l'accord de la femme, quand même mekro batel. La vente n'a pas lieu. Pourquoi? Alma, n'est-ce pas? Yocholai se tomar, nachat ruach, c'était le bali. Elle pourra dire qu'elle n'est pas d'accord, par contre elle a accepté simplement pour faire plaisir à son mari. Donc dans votre Mishnah aussi, elle pourra dire la même chose. Demande Tosfot pourquoi la Gemara ne répond pas qu'en premier lieu, c'est elle qui a écrit à l'acheteur « Dinu dvarim en limcha » et ce n'est qu'après cela que le mari lui a vendu le champ. Comme quoi nous dit la fin de la Mishnah qui a été rapportée ici dans notre Gemara « Lakach mina isha ve chazar ve lakach mina ish mekro kayam » Si d'abord il a acheté de la femme et ensuite il a acheté du mari, la vente est valable. Répond Tosfot si on respecte les mots de la Mishnah « Umachar et sadeu ve katva » etc. D'abord, le mari a vendu le champ, puis elle a écrit, etc. Donc il en sort que c'est d'abord, en premier lieu, le mari qui a vendu le champ, et non pas elle qui a écrit Dinu Dvarim. C'est pour cela que la Gemara ne pouvait pas répondre ça. Alors, à la Gemara de répondre, Amar Rav Zera, Amar Rav Chisda, nous dit Rav Zera, au nom de Rav Chisda, Lokashia, Harabi Meir, Harav Yuda. En fait, le prétexte de Nachat Ruach Asiti le Baali, je ne l'ai fait que pour faire plaisir à mon mari, ceci est une divergence parmi les Tanaïm. Est-ce que ce prétexte est accepté ou pas? De Tania, comme on a vu dans la Braïta, Katav la Rishon velo khatmalo. La Sheni ve khatmalo. Ibdak tumata, dit vrai Rabbi Meir. Le mari qui a vendu à une personne un des champs, et elle n'a pas été d'accord avec cette vente. Donc elle n'a pas signé qu'elle accepte. Et ensuite le mari a vendu un autre champ à une autre personne, ve khatmalo. Et là elle a accepté et elle a signé. En cas de veuvage ou de divorce, s'il n'y a pas de bien non hypothéqué, elle a perdu la ktuva. Elle ne pourra rien réclamer de l'acheteur, elle a accepté, elle a signé. Telle est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Yecholei Shetomar, Nachat Ruach Asiti le Baali, Atem Manachem Alay. D'après Rabbi Yehuda, elle pourra oui réclamer le champ de l'acheteur, elle pourra dire je n'ai pas accepté, la seule raison que j'ai signé, c'était pour faire plaisir à mon mari. Vous, que voulez-vous contre moi? Donc notre Mishnah partage l'opinion de Rabbi Meir, comme quoi on n'accepte pas le prétexte qu'elle ne l'a fait que pour faire plaisir à son mari. Et la Mishnah dans la Maseret Gittin partage l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est pour cela que la Mishnah nous dit « Mekro batel » La vente n'a pas lieu, étant donné qu'on accepte le prétexte. Demande la Gemara « Ve Rebi »« Satamlan hachak Rabbi Meir »« Ve satamlan hatan Rabbi Yehuda » Et Rabbi Yehuda Anassi qui a rédigé les Mishnayot. Notre Mishnah est celle de la Maseret Gittin. Quelle est son opinion exacte? Dans la Maseret Gittin, il partage l'opinion de Rabbi Yehuda. Et dans notre Maseret, il partage l'opinion de Rabbi Meir. Comment cela est possible? Répond la Gemara, Amara Papa, Bigrusha veut dire à Kol. Dans notre Mishnah, il s'agit d'une divorcée, et cela correspond avec l'opinion de tout le monde. En effet, une femme mariée qui a accordé un champ à quelqu'un, on pourra dire qu'elle ne l'a fait que pour faire plaisir à son mari, et ça c'est le cas de la Mishnah dans la Maseret Gittin, comme quoi Rebbi partage l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est pour cela que Mikrobatel, la vente n'est pas valable. Elle pourra prétexter qu'elle ne l'a fait que pour faire plaisir à son mari. Par contre, dans notre Mishnah, il s'agit du cas où elle a écrit cela après s'être divorcée. Et donc, elle ne cherche certainement pas à faire plaisir à son ex-mari. C'est pour cela que nous a dit notre Mishnah, qu'en effet, elle a perdu ses droits. Ravashi Amar, Kula Rabbi Meiri. Ravashi n'est pas d'accord avec Rav Papa. Dans notre Mishnah aussi, il s'agit du cas où elle n'est pas encore divorcée. Elle vit avec son mari. Et quand même, les deux Mishnayot, notre Mishnah et la Mishnah de la Maseret Gittin partagent l'opinion de Rabbi Meir. Donc Rav Ashi Amar, Kula Rabbi Meiri. Toutes les Mishnayot partagent l'opinion de Rabbi Meir. Ve'atkan loke Amar Rabbi Meir Atam et la Mishnah le Kochot. Et quand est-ce que d'après Rabbi Meir, on ne va pas accepter le prétexte de je ne l'ai fait que pour faire plaisir à mon mari, uniquement à propos de deux acheteurs? Voyons bien voir le cas présenté dans la Braïta. Katav le Rishon velo Khatmalo, le Sheni ve Khatmalo. Le mari a vendu le champ à quelqu'un, et elle n'a pas signé, elle n'a pas donné son accord. Ensuite, il a écrit le champ à quelqu'un d'autre, à une deuxième personne, Zechat Malo, et là, elle a donné son accord. Nous dit Rav Ashi, c'est uniquement dans ce cas-là que devrait Rabbi Meir, elle ne pourra pas prétexter qu'elle l'a fait pour faire plaisir à son mari. Pourquoi? La Gemara même explique, de Amrela, car on va lui dire « Iita de Nachat Ruach Avdat, le Kamei Ba'elach le Me'ebad. » Si en effet tu cherches à faire plaisir à ton mari, pourquoi tu n'as pas cherché à lui faire plaisir à propos du premier acheteur? Donc tu as montré que tu ne cherches pas à lui faire plaisir. Alors notamment quand tu l'as accepté avec le deuxième acheteur, tu l'as accepté sincèrement. Mais cependant, Aval Beloké Achechad, au cas où le mari a vendu le champ qu'une fois à un acheteur, et elle a donné de suite son accord, Afilo Rabbi Meir Modé. Même en suivant l'opinion de Rabbi Meir, elle pourra prétexter qu'elle l'a fait que pour faire plaisir à son mari. Donc, pour conclure, la Mishnah dans la Masechet Gittim s'est écrit Lakach Mina Ish Vechaza Velakach Mina Isha Mekrobatel. L'acheteur qui a acheté le champ du mari puis de la femme, la vente n'est pas valable. Elle pourra prétexter qu'elle a donné son accord que pour faire plaisir à son mari. Cette Mishnah correspond aux deux opinions, celle de Rabbi Meir et celle de Rabbi Yehuda. En effet, il ne s'agit que d'un acheteur. Et ce qui nous reste à expliquer, c'est notre Mishnah. Étant donné que apparemment dans notre Mishnah, il ne s'agit que d'un acheteur, pourquoi la Mishnah nous dit que sa renonciation a lieu? Pourquoi ne pourrait-elle pas prétexter qu'elle l'a fait que pour faire plaisir à son mari? La Gemara continue. Umatnitin de Katavle le Acher. Et en effet, dans notre Mishnah, il s'agit du cas de deux acheteurs. D'abord, le mari a vendu le champ à une personne quelconque, et elle ne lui a rien écrit. Et ensuite, le mari l'a vendu à un autre, et à celui-là, elle a oui écrit. Donc, d'après Rabbi Meir, comme on l'a vu, elle ne pourra pas prétexter qu'elle l'a fait pour faire plaisir à son mari. C'est pour cela que la Mishnah nous dit que la renonciation est valable. On continue la Gemara. Tnanatam. On a appris dans la Mishnah ailleurs, dans la Masechet Gittin. En nifraim minechassim shuabadim, bemakom shesh nechorim, veafilu en ziburit. Comme on l'a déjà rapporté, il y a trois catégories de champs. Idit, benonit et ziburit. Idit, c'est la première qualité. Benonit, la qualité moyenne. Et ziburit, la qualité médiocre. Normalement, le créancier qui réclame un champ de son débiteur, il a droit à une qualité benonite, à un champ de qualité moyenne. Et quand même, nous dit la Mishnah, au cas où il y a chez le débiteur des biens non hypothéqués, même dans le cas où ces biens-là ne sont que des ibourites, des champs de qualité médiocre, et il y en a d'autres de qualité moyenne, mais hypothéqués, en d'autres termes, qui ont été vendus par le débiteur à un acheteur quelconque, le créancier ne pourra pas se retourner réclamer le champ benonite, le champ de qualité moyenne de l'acheteur. Il devra se suffire du champ non hypothéqué qui se trouve chez le débiteur, même qu'il est créé de qualité médiocre. Ibayalou, on s'est posé la question suivante. Ishtadouv nechari, maoudritrof mimshabde. L'acheteur qui a acheté un champ du débiteur, mais il n'a pas tout acheté, il a laissé un autre champ chez le débiteur pour le créancier. Et ensuite, ishtadouv benechari, le champ non hypothéqué, le champ qui est resté chez le débiteur, il l'a brûlé ou il s'est desséché. En tous les cas, il ne vaut plus rien. Est-ce que le créancier pourra retourner chez l'acheteur ou pas? Est-ce qu'il pourra lui dire « Tu m'as rien laissé, il n'y a plus rien chez le débiteur » ou bien l'acheteur pourra répondre « C'est pas vrai, moi quand j'ai acheté mon champ, j'en ai laissé un chez le débiteur. » Donc, compte tenu que je t'ai laissé un champ, ton hypothèque ne tient plus sur mon champ et tu ne peux rien me réclamer. Voici la question qu'on s'est posée. Nous dit la Gemara Tashma. Viens écouter la preuve suivante. Et la Gemara nous rapporte la Braïta, qui a déjà été ramenée précédemment, à propos de la divergence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Nous dit la Gemara. Tashma, katav la rishon velo khatmalo. La sheni ve khatmalo, ibdak tuvata, divrei Rabbi Meir. Le mari qui a écrit un acte de vente, qui a vendu un champ à une personne quelconque, et elle n'a rien signé, elle n'a pas donné son accord, ensuite il a écrit un deuxième acte de vente à une deuxième personne, et dans ce cas-là, elle a oui signé, elle a donné son accord, elle ne pourra réclamer ni le premier champ, ni le deuxième champ. Le premier champ, elle ne pourra pas le réclamer, étant donné que l'acheteur pourra dire « J'en ai laissé un autre ». Et le deuxième, elle ne pourra pas le réclamer. En effet, elle a signé, donc elle a renoncé. Telle est l'opinion de Rabbi Meir. Et à la Gemara de déduire « Ve'i salkada atach ishtadouf b'nechari tarifi meshabde » Et si on va dire qu'au cas où les biens hypothéqués ont desséché et ne valent plus rien, le créancier pourra réclamer de l'acheteur le champ qu'il a acheté, le champ hypothéqué, « Ne'i de ibdak tuvata micheni » Mirishon Miyatikbe, admettons qu'elle a perdu le champ du deuxième acheteur, étant donné qu'elle lui a écrit qu'elle donne son accord, donc elle a renoncé à son hypothèque à propos du deuxième champ. Cependant, à propos du premier champ, à qui elle n'a pas donné son accord à l'acheteur, pourquoi ne pourra pas-elle le réclamer? Quand le premier acheteur a acheté le champ, il a laissé un champ non hypothéqué. Et après ce champ, c'est comme s'il a été perdu, c'est comme s'il était desséché. Il a été vendu. Alors si quand le champ a été perdu, elle pourra retourner chez le premier pourquoi la Braïta nous dit Ibda Ktubata? Elle a complètement perdu la Ktuba. Pourquoi ne pourra-t-elle réclamer le champ du premier acheteur? Donc forcément, il faudra déduire qu'au cas où le bien non hypothéqué laissé par l'acheteur a desséché, il ne vaut plus rien, le créancier ne pourra pas retourner chez l'acheteur. C'est pour cela que Ibda Ktubata, elle a perdu complètement sa Ktuba. Réfute Rav Nachman Bar Yitzchak, Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Mai Ibda, Ibda Micheni. En effet, quand c'est écrit dans la Braïta, Ibda, elle a perdu la Ktuba, cela ne sera pas interprété qu'elle l'a perdu entièrement. Néanmoins, ceci sera interprété qu'elle l'a perdu vis-à-vis du deuxième acheteur. Mais en effet, elle pourra retourner réclamer le champ du premier acheteur. Amar Rava. Rava a dit sur la réponse de Rav Nachman Bar Yitzchak, Shtei Tshuvot Badavar. Il y a deux réfutations à cela. Chada de Ibda, le Gabré Mashma. Premièrement, quand la Braïta a employé le terme Ibda, cela s'entend qu'elle a perdu entièrement, et non pas partiellement. Ve'otania. Et deuxièmement, ceci a été explicité dans une autre Braïta. Lava mina echad, umachar no chassav le shnaim. Celui qui a emprunté de l'argent d'une personne quelconque, et après l'emprunt, il a vendu ses biens à deux personnes. Ve'kotav ba'al chov lokeach sheni, dinu dvarim en limar. Ensuite, le créancier a écrit au deuxième acheteur, je renonce à toute revendication envers toi. Au moment du remboursement, si le débiteur n'a pas de quoi rembourser, il est évident que le créancier ne pourra pas retourner chez le deuxième acheteur. En effet, il a renoncé. Rajoute la braïta, Enlo à la loquer Rishon Klum. Il ne pourra non plus rien réclamer du premier acheteur. Mipne Sheyachol Loma, Hinarti Lochamakom, Likvot Emeno. Étant donné que le premier acheteur pourra lui dire, moi quand j'ai acheté le champ de ton débiteur, je t'ai laissé un champ d'où récupérer ta dette. Donc on voit explicitement dans cette braïta que dans le cas où le bien laissé par le premier acheteur a été perdu, pour une raison ou une autre, il n'est plus récupérable, le créancier ne pourra pas retourner chez le premier acheteur. La Gemara continue. Hatam iud afsid nafshe biyadayim. D'après Rashi, c'est la suite des propos de Rava. Nous dit Rava, en effet, on ne pourra pas résoudre la question par ces deux braïtotes. Normalement, on pourra dire que dans le cas où l'acheteur a laissé un champ, et ce champ a été perdu naturellement, il a desséché, dans ce cas-là, le créancier pourra, oui, retourner chez le premier acheteur. Mais dans le cas où le champ laissé par le premier acheteur, ce champ-là est toujours là, il vaut toujours de l'argent. Simplement, il a été vendu à un deuxième acheteur. Et c'est le créancier qui, par sa faute, ne peut pas récupérer ce deuxième champ. Il a écrit au deuxième acheteur qu'il renonce à son hypothèque à propos de ce champ. C'est lui-même qui s'est causé un tort personnel. Il en est responsable. C'est que pour cela qu'il ne pourra rien réclamer du premier acheteur. Et de même, dans le cas de la première Braïta, c'est la femme qui est la créancière. On lui doit une ktouva, et c'est elle qui a renoncé à l'hypothèque du deuxième champ. Donc, elle en est responsable. C'est pour cela qu'elle ne pourra rien réclamer du premier acheteur. Mais sinon, dans un cas de dégâts naturels, le créancier pourra retourner chez le premier acheteur. Tosfot refuse l'explication de Rashi. D'après Tosfot, c'est la Gemara qui rejette la deuxième réfutation de Rava. On ne pourra rien prouver de cette Braïta-là. En effet, il y a une grande différence entre le créancier de la deuxième Braïta et la femme de la première Braïta, à qui on doit une Ktouva. Le créancier de la deuxième Braïta est un créancier réel. On lui doit maintenant une somme d'argent. Par contre, s'il renonce à son hypothèque, c'est son problème, c'est à lui de souffrir les conséquences. Tandis que dans la première Braïta, comme quoi elle n'est qu'une créancière potentielle, au cas où son mari va la divorcer, ou bien il va mourir, dans ce cas-là, elle deviendra une créancière réelle. Mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Donc le fait d'avoir renoncé à son hypothèque n'est pas considéré comme s'être fait un tort personnel. Elle n'en est pas responsable. Ceci est comparable au cas de Ishtadouf, au cas d'une catastrophe naturelle. Donc d'après Tosfot, nous dit la Gemara, Atam hiud afsid nafshe biyadayim. Le cas de cette Braïta est différent, étant donné qu'il est déjà créancier, donc c'est lui qui s'est fait un tort personnel. Je résume brièvement. D'après Rashi, c'est Rava même qui, après avoir rejeté la réfutation de Rav Nachman Bar Yitzchak, il nous propose une autre réfutation qui concerne les deux braïtot, celle de la femme et celle du créancier. Par contre, d'après Tosfot, c'est la Gemara même qui rejette la deuxième réfutation de Rava. En tous les cas, soit d'après Rashi, soit d'après Tosfot, la question qui a été posée n'est toujours pas résolue. On continue la Gemara. Amarle Rav Yehimar le Ravashi, a demandé Rav Yehimar à Ravashi, on tourne la page, on est indiqué à Moudbet, Vamas.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Amarle Rav Yehimar le Ravashi, a demandé Rav Yehimar à Ravashi, on tourne la page, on est indiqué à Moudbet, Vamasim Becholiom, En effet, cela se voit souvent hein, que dans le cas où le champ laissé par l'acheteur a subi une catastrophe, il ne vaut plus rien. Le créancier pourra réclamer le champ qui a été pris par l'acheteur. Comme on l'a vu dans l'histoire suivante, de Ougavra de Mishken le Pardissa le Chavre le Esser Shanin, le Kash le Chamesh Shanin. Il y a une personne qui devait de l'argent à son camarade. Pour payer, ils ont fait entre eux un accord suivant. Le créancier va prendre la vigne du débiteur et c'est lui qui va en profiter durant 10 ans. Arrivé à terme, il va la rendre au débiteur et celui-là ne lui devra plus rien. Donc j'aurai une agmara. Daou gavra de mishken le pardissa le chavre. Il y a un débiteur qui a engagé sa vigne à son camarade, le créancier. Et cela, le Esser Shanim. Pour un laps de temps de 10 ans. Ve kash le chamesh shanim. Et au bout de 5 ans, la vigne a vieilli. Elle ne porte plus de fruits. Ve ata le kamayou de la banane. Ve katvoulet tirfe. Et en effet, le créancier s'est présenté devant un tribunal. Et le tribunal lui a écrit une tirfa. Une ordonnance comme quoi il pourra réclamer des biens qui, au moment du prêt, appartenaient au débiteur, et ensuite il les a vendus. Donc de là, on pourra prouver que le créancier pourra retourner chez le premier acheteur si le champ laissé chez le débiteur a subi des dégâts et il ne vaut plus rien. En effet, dans notre cas, quand l'acheteur a acheté un bien du débiteur, il a laissé la vigne. Et quand même, on a vu dans ce cas qu'au bout de 5 ans, quand la vigne a vieilli, le créancier pourra réclamer les champs qui ont été achetés. La Gemara nous dit non, ce n'est pas une preuve. Hatamnami inu de afsir dan achayou. Dans ce cas aussi, ce sont les acheteurs qui se sont fait un tort personnel. C'est considéré comme s'ils n'ont rien laissé. Pourquoi? Kevan de Aveada de Pardissa Avid de Kish, Loiba Eleu le Misban. Étant donné qu'il est connu que cela arrive souvent que la vigne vieillit, donc c'est eux qui ont pris des risques en achetant les biens du débiteur. À la Gemara de conclure, Veul Cheta, Ishadouf Bnechari, Tarfami Meshabder. Et la halakha est la suivante. Au cas où les biens non hypothéqués qui ont été laissés par l'acheteur chez le débiteur, au cas où ces biens ont subi une catastrophe, ils ne valent plus rien. Tar famim shabde, le créancier pourra retourner chez l'acheteur. Amar Abaye, nous dit Abaye, celui qui a dit à une fille célibataire, ne chassailir v'acharich liponi, je te donne mes biens, et après toi, après ton décès, ils iront chez un tel. V'amda venisset, et après avoir reçu les biens, elle a épousé un homme. Baal loke achave, ven l'acharich bimkom baal kloum. Cela est considéré que le mari est un acheteur. Il a acheté les biens de sa femme. Et par conséquent, quand celle-là viendra à mourir, les biens n'iront pas chez la personne précisée par le donneur. Ils resteront chez le mari. En d'autres termes, quand est-ce qu'on va dire que la personne précisée par le donneur va profiter des biens après la fille? Que dans le cas où elle ne les a pas vendus. Mais si elle les a vendus, c'est l'acheteur qui les garde. Étant donné qu'elle s'est mariée, cela est considéré comme si elle les a vendus à son mari, et donc celui qui vient après elle n'aura rien du tout. Nous dit la Gemara que man ki aitana de Tania. Cela correspond à l'avis du Tana de cette Braïta. Ne chassailir v'acharich liploni. Celui qui a dit à quelqu'un, je te donne mes biens, et après toi, tu les donneras à un tel. Et ensuite, yara darishon umachar. Le premier, celui qui les a reçus, les a vendus. Hasheni motzi miyad alakuchot divrei rabbi. Quand le premier viendra à mourir, le deuxième, celui à qui arrive son tour de prendre les biens, pourra les réclamer des acheteurs. Telle l'opinion de Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel omer, en la sheni et la masheshier rishon. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, le deuxième ne pourra recevoir que ce qui a été laissé par le premier. Par contre, ce que le premier a vendu, les acheteurs pourront garder. Donc Abaye partage l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Demande la Gemara, Umi Amar Abaye Achi, comment cela est possible qu'une telle chose ait été dite par Abaye? Va Amar Abaye, on a autre chose qui a été dit par Abaye. Et Zehu Rasha Arum, Zeha Messi, Etza, Limkor bin Nechassim, ki Rabban Shimon ben Gamliel. Quelle est la définition du Rasha Arum? Du méchant rusé, celui qui conseille à la première personne, à la personne qui a reçu les biens du donneur, pour qu'ils aillent après lui chez quelqu'un d'autre, celui qui donne un conseil au premier de les vendre, donc en suivant l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, il cause une perte au deuxième, celui-là est un Rasha Arum. Il est rusé car il a donné un bon conseil, une bonne astuce au premier pour garder les biens, et il est Rasha, étant donné que lui-même n'en profite en rien. En tous les cas, on voit qu'Abaye n'est pas d'accord avec ça. Répond la Gemara, mi que Amar tina fait, ni sept que Amar. Ceci n'est pas contradictoire. Et ce que Abaye a conseillé à la fille de se marier, et ce que Abaye a dit, elle pourra se marier pour garder les biens. Abaye a parlé a posteriori. Au cas où venit sept, si elle se mariait, dans ce cas-là, en effet, le mari pourra tout garder et le deuxième a perdu. Autre halakha de Abaye. Va Amar Abaye, et nous dit Abaye, celui qui dit à une fille, par la suite on va voir s'il s'agit d'une fille célibataire ou d'une fille mariée, en tout le cas il lui dit, ne chassai lire. Mes biens sont pour toi. Ve'acharich liploni, et après toi pour un tel, ou Mahra, ou Meta. Et elle les a vendus, ensuite elle est morte. Habaal, moti miyad al kochot, vacharich, miyad bal, velokeach, miyad acharich. Le mari a la priorité vis-à-vis de l'acheteur, donc il pourra retirer les biens des acheteurs. La personne précisée par le donneur qui vient après elle a la priorité sur le mari, donc il pourra retirer les biens du mari. L'acheteur, celui à qui la femme a vendu, celui-là a la priorité vis-à-vis du acharicha, vis-à-vis de la deuxième personne précisée par le donneur, et donc il pourra retirer les biens de cette personne. Ou mukminan le kulu bida de l'okéar. Et on ne va pas recommencer le cercle une deuxième fois. Le mari de l'acheteur, la personne qui vient après la femme du mari, et l'acheteur de cette personne. On va laisser les biens dans la main de l'acheteur. Explique Tosfot, étant donné qu'en fin de compte, c'est ce qui va se passer, les biens vont rester dans les mains de l'acheteur, donc dès le début, on les lui laisse. Et ce n'est pas que initialement, la première fois, le mari va les retirer de l'acheteur, et la personne qui vient après la fille va les retirer du mari, et l'acheteur va de nouveau les retirer de celui qui vient après la fille. Ce que la Gemara veut nous dire, c'est la chose suivante. Étant donné que si on les prend du l'acheteur pour les donner au mari, puis on les retire du mari pour les donner à la personne qui vient après la fille, on devra les retirer cette personne pour les rendre à l'acheteur. Donc autant les laisser dès le début chez l'acheteur. Demande la Gemara, Maishna ma detnan, vechozrot chalila atchia soupshara benem. Pourquoi ce cas-là diffère de celui de la Mishnah? Comme quoi on avait dans la Mishnah, vechozrot chalila. Et ainsi de suite, on reprend le circuit. Je vous rappelle le cas de la Mishnah, celui qui était marié à deux femmes. Et il a vendu ses biens à une personne. La première a écrit à l'acheteur qu'elle renonce à ses droits. Nous dit la Mishnah, Hashnia motzia me'alokear. La deuxième qui n'a rien écrit pourra retirer les biens de l'acheteur. Verishona minashnia. La première qui a la priorité par rapport à la deuxième pourra retirer les biens de la deuxième. Ve'alokear minarishona. Et la seule pourra de nouveau retirer les biens de la première. Ve'chozrotralila. Et ainsi de suite. Atia soupshara benem. Jusqu'à qu'il fasse un accord entre eux. Alors la Gemara demande pourquoi le cas d'Abaye est différent. Répond la Gemara, Hatam itleu pseda le kulu. Là-bas, dans le cas de la Mishnah, c'est tout le monde qui est perdant. La première, la deuxième et l'acheteur. Les deux femmes ont une ktouva à récupérer et l'acheteur a son argent qu'il a investi. C'est pour cela qu'on ne pourra pas laisser les biens chez l'un plus que chez l'autre. Donc, ils devront s'arranger entre eux. Tandis que dans notre cas, Haha, Lokeach ou de itleu pseda. Ce n'est que l'acheteur qui est perdant. Le mari n'a rien investi, il s'est marié. La personne désignée par le donneur qui vient après la fille n'a rien investi non plus. Donc ce n'est que l'acheteur qui a investi, ce n'est que lui qui est perdant. C'est cela qui est pris en considération et qui fait la différence. Azal Rafram, Amar le Shmata Kame de Ravashi. Rafram est allé raconter à Ravashi l'enseignement de Abaye. Mi Amar Abaye Achi. Comment cela est-ce possible que Abaye a dit une telle chose? Va Amar Abaye no Chassilich, va Chari Chetoni Amda Veniset, Baal Loke Achave. Comment Abaye nous dit que la personne désignée par le donneur, qui vient après la fille, a la priorité sur le mari, comme on l'a vu dans les propos d'Abaye, la personne qui vient après la fille pourra retirer les biens du mari. En effet, tout à l'heure, Abaye nous disait autrement, celui qui dit à une célibataire, mes biens sont pour toi, et après toi pour un tel, amda venisset, et ensuite elle s'est mariée, baal loke achave. C'est considéré comme si le mari a acheté tous les biens, et la personne désignée par le donneur qui vient après la fille n'aura rien du tout. Donc cette personne n'a pas la priorité sur le mari. Lui a répondu Ravashi, Amarle, Hatam de Amarla, Kshipnuya. Dans le premier cas de Abaye, il s'agit d'un donneur qui a parlé à une célibataire. Haha de Amarla, Kshinesua. Tandis que dans ce cas-là, il s'agit d'un donneur qui a donné ses biens à une fille mariée. Donc dans le cas où elle est célibataire, et après avoir reçu les biens de ce mari, c'est le mari qui a la priorité. Mais dans le cas où elle est déjà mariée, le mari n'a pas la priorité. Pour quelle raison? Maïke Amarla, Acharich Likni, Baal Lolikni. Étant donné que le donneur voit bien qu'elle est mariée, et quand même il lui a dit, Vacharich Leploni, et après toi mes biens appartiendront à un tel, cela s'entend à un tel et non pas à ton mari. C'est pour cela qu'au cas où elle est mariée, la personne désignée qui vient après elle a la priorité sur le mari. On reprend le dernier passage de la Mishnah. Vechen Baal Chov. Je lis la suite de la Mishnah. Vechen Isha Baal Atrov. De même à propos d'un créancier, et de même à propos d'une créancière. Tana, on a une braïta qui explique la Mishnah. Vechen Baal Chov, Ushne le Kuchot. Vechen Isha Baal Atrov, Ushne le Kuchot. Pour que ce soit bien clair, je vais donner un exemple avec des personnages comme le Ferashi. Reuven qui réclame 1000 francs de Shimon. Et Shimon, le débiteur, a deux champs. Et il les a vendus à deux personnes différentes. Chaque champ a été vendu à 500 francs. Donc d'abord, il a vendu un des champs à Lévi. Ensuite, il a vendu le deuxième à Yehuda. Le créancier Reuven a écrit au deuxième acheteur, à Yehuda. Dinu dvarim en liimach. Je renonce à toute revendication que je pourrais avoir contre toi. Une fois arrivé le moment où Reuven le créancier réclame la dette de Shimon, et Shimon n'a rien à payer, le créancier Reuven s'en retournera chez Lévi, le premier acheteur. Cependant, il ne pourra pas réclamer le champ acheté par Yehuda. En effet, face à Yehuda, il a renoncé à ses droits. Donc maintenant, c'est Lévi, le premier acheteur, qui devance Yehuda, qui pourra réclamer le champ de Yehuda. En effet, lui, Lévi, n'a renoncé à rien. Donc Yehuda va lui donner son champ. Ensuite, le créancier qui n'a rien renoncé face à Lévi pourra reprendre ce deuxième champ de Lévi. Et ainsi de suite. Yehuda reprend ce champ de Reuven le créancier. Lévi, le premier acheteur, le reprend de Yehuda, le deuxième acheteur, etc. Donc ça, c'est l'explication de Vechen Baalchov ou Shne Lekuchot. Un créancier et deux acheteurs. La suite de la Mishnah. Vechen Isha Baalatchov ou Shne Lekuchot. Une femme dont la ktouva avait une valeur de 1000 francs et son mari possède deux champs. Chacun a la valeur de 500 francs. Le mari a vendu les deux champs à deux acheteurs. Le premier champ à Lévi, le deuxième à Yehuda. Et la femme a écrit au deuxième acheteur, à Yehuda, je renonce à mes droits de revendication envers toi. Quand vient le moment de réclamer la ktouva, au cas où il n'y a que ces deux champs-là, elle ne pourra réclamer que le champ de Lévi. En effet, elle a renoncé à ses droits envers Yehuda. Donc on reprend le même circuit. La femme réclame le champ du premier acheteur de Lévi. Lévi réclame le champ du deuxième acheteur, de Yehuda. Une fois que ce champ est chez Lévi, la femme le réclame de Lévi, Yehuda de la femme, Lévi le premier acheteur de Yehuda, et ainsi de suite. Jusqu'à qu'ils fassent un accord entre eux. Évidemment, la question se pose, pourquoi la Mishnah devait citer tellement d'exemples? Trois exemples. Ceci est la question de Tosfot. Nous répond Tosfot. Si la Mishnah nous avait parlé que du premier cas, du cas de celui qui est marié à deux femmes, et c'est la première qui a renoncé à ses droits envers l'acheteur, comme quoi la deuxième pourra retirer le champ de l'acheteur, et la première femme de la deuxième femme, et l'acheteur de la première femme, et ainsi de suite, on aurait pu dire que c'est que dans ce cas-là que la première pourra réclamer le champ que la deuxième a retiré de l'acheteur, étant donné que la deuxième n'est pas tellement perdante. Elle pourra toujours attendre que le mari gagne quelque chose, et elle pourra le réclamer. Son mari lui est toujours hypothéqué. Mais à propos d'un créancier avec deux acheteurs, si on va dire que le créancier va prendre à Lévi le champ qu'il a lui-même pris de Yehuda, donc Lévi est complètement perdant. Dans ce cas-là, on aurait dit que le créancier ne pourra pas retirer le champ de Lévi. C'est pour cela que le Mishnah nous a relaté le deuxième cas. Et si le Mishnah n'avait pas relaté le troisième cas, j'aurais pu dire en effet dans le deuxième cas qu'il y a un créancier, il y a une personne qui a prêté de l'argent. C'est pour cela qu'on accepte qu'ils prennent le champ réclamé par Lévi. Il faudra toujours faire plaisir aux prêteurs pour qu'ils acceptent de prêter leur argent. Tandis qu'à propos de la femme créancière, qui n'a pas vraiment prêté de l'argent, ce qui lui est dû, c'est la ktouva, j'aurais pu dire qu'on ne va pas lui faire ce plaisir. Elle ne pourra pas réclamer le champ du premier acheteur. C'est pour cela que la Mishnah nous a relaté le troisième cas. Celui qui veut approfondir les propos de Tosfot est prié à étudier le Marshal et le Bach. Et c'est là qu'on termine le chapitre. Et c'est là qu'on termine le cours du Daf Hayomi du Daf Tzadikhe. Adran Alach, Mishaya Nasouy. On espère que Bezrat Hashem réviser ce chapitre, le dixième chapitre, le chapitre appelé Mishaya Nasouy.
Commencer avec l'aide de Dieu, le onzième Pérek du traité de Ktuvot, par la première Mishnah de celui-ci, qui se trouve en bas de la page Tzadikhe Amoudbet. Almana Nizolet, Mirsei Yotomim. La veuve se nourrira des biens qui se trouvent dans la possession des orphelins qui ont hérité de son mari. Maasei Adea Shelaen. Le fruit du labeur de ses mains leur appartiendra à eux. Ve'en Chayavim Bikvurata. Mais ce n'est pas à eux qu'incombera le devoir de l'enterrer. Yorshea, Yorshe Ktuvata, Chayavim Bikvurata. Ce sont ses héritiers à elle, ceux qui héritent de son contrat de mariage. Nous savons qu'il s'agit de ses enfants à elle. C'est eux qui seront responsables du financement de son enterrement. Ibaalou. Rapporte la Gemara la question posée par les étudiants de la Yeshiva à propos de cette Mishnah. Nizonetnan ou Hanizonetnan. Est-ce que la Mishnah voulait dire la veuve est nourrie d'office des biens de son mari qu'ont hérité les orphelins? Ou son intention était de dire, lorsque la veuve est nourrie de l'héritage que son mari a laissé à ses orphelins, c'est alors que le salaire qu'elle gagnerait en travaillant leur reviendrait à eux. Et la Gemara de s'expliquer. Nizonetnan ou Kalchegalil, Velosagi de Loyavila. Si nous disions que la Mishnah entend par là qu'elle est nourrie un point à la ligne, c'est donc qu'elle serait de l'opinion des résidents en Galilée. Leur avis était ramené en page Nounbet Amoudbet dans la Mishnah. C'est donc que les orphelins ne peuvent pas se dérober de leur devoir de nourrir la veuve. Odilma Anizoletnan, à moins que la Mishnah parle du cas où elle serait nourrie par ses orphelins, ou Kanche Yehuda. Et c'est donc que la Mishnah serait de l'optique des résidents en Judée. Veibaou Loyavila. Et s'il le voulait, ses orphelins ne pourraient pas la nourrir. Nous passons en page Tzadik Vav, Tashma. Viens écouter ce qui a été dit.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.